Merci Mathieu. Bienvenue à chacun de vous. Si vous êtes nouveau, eh bien, sachez moi aussi. Je ne sais même pas qui est membre, qui est visiteur. Donc, mais on est tous et toujours la bienvenue dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Il y a bien des années, même avant que l'euro soit la monnaie de l'Europe, il y avait un jeune couple qui habitait dans un quartier nouveau du côté de l'aéroport à Amsterdam. Et ce couple était des jeunes chrétiens très engagés. Et ils s'inquiétaient qu'il n'y avait pas d'église évangélique tout près de chez eux. Donc, ils ont décidé de prier. Et pendant des mois et des mois, ils ont prié. Et petit à petit, ils se sont constitués autour de ce couple d'autres jeunes personnes, d'autres jeunes couples qui avaient le même souci qu'il y ait une église évangélique dans leur quartier. Et au fil des mois, il s'est constitué un groupe d'une vingtaine de personnes. Et pendant 6 mois, ils ont prié pour que le Seigneur commence une église dans leur quartier. Et chaque semaine, quand ils étaient ensemble, ils ont fait une collecte en vue éventuellement de faire monter une église. Je crois que c'était au bout d'un an. Le Seigneur leur a dit, c'est le moment de commencer. Donc, ils sont allés, ils ont loué une salle quelque part dans leur quartier et ils ont invité tous leurs amis à venir et il y avait presque 100 personnes qui sont venues au premier culte. Mais c'est là où était la grande surprise parce qu'avec tout cet argent qu'ils avaient reçu pendant un an, je vous ai dit, c'était avant le temps des euros. Hein. Ils sont allés à la banque et ils ont procuré une centaine de pièces. Je ne connais pas la monnaie d'Hollande à l'époque, mais enfin, ils ont pris des pièces qui valaient presque 20 euros. Et ils en avaient une centaine de pièces comme ça. Et tous les gens qui sont venus à ce premier culte, à leur grande surprise, le pasteur, il a prêché, le jeune qui était devenu pasteur de cette église, il a dit, vous avez peut-être entendu que les églises ne veulent que mettre la main sur votre portefeuille, mais ce n'est pas le cas. Dieu, il veut vous donner. Et il vous a donné son fils Jésus. Et en signe de ce don que Dieu vous a donné, nous allons vous présenter à chacun ici présent à ce culte une pièce, donc une pièce qui valait dans les 20 euros. Hein. Et les gens étaient tellement contents, il n'y avait pas d'offrande, pas de collecte ce jour-là, il y avait juste les gens qui ont reçu de l'argent. Bon, la nouvelle s'est répandue dans la ville d'Amsterdam. Le dimanche suivant, les stations de télévision sont venues, les reporters des journaux sont venus dans une église qui, au lieu de collecter de l'argent, donnait de l'argent aux gens qui venaient. Bon, détrompez-vous, je n'aurai pas des pièces à vous donner ce matin. Hein? Cette église a eu un grand succès, comme vous pouvez imaginer. Mais il y a une chose qui est certaine. Nous, les pasteurs, on n'aime pas parler d'argent parce que, justement, il arrive que les personnes disent « Ah oui, mais on ne parle que de l'argent, que de l'argent. Je n'irai plus à l'église parce qu'il veut mon argent et je n'aime pas ça. » Mais vous savez, je ne suis pas payé par vous. Hein. Je ne suis pas salarié de cette église. Cathy et moi, nous sommes là un peu comme vous, en volontaire. Et nous sommes contents d'être avec vous. Et donc, moi, je n'ai pas peur ce matin de vous parler de l'argent parce que ça fait partie de la vie normale des chrétiens, n'est-ce pas? Parce que Dieu, dans sa parole, il a plein de choses à nous dire concernant nos biens et aussi notre argent. Heureusement, on parle peu dans l'Église de l'argent, comme disait notre trésorier. Et souvent, on ne parle que dans des moments de difficulté. Mais j'ai demandé à Mathieu et il m'a dit, ça va plutôt bien dans nos offrandes, n'est-ce pas? Hein? Les offrandes ont bien augmenté petit à petit tout au long de cette année. Merci Seigneur et merci à vous parce que vous êtes fidèles dans vos offrandes, dans vos dîmes et dans vos offrandes. Merci Seigneur. Mais nous allons nous trouver dans peu de temps devant un défi de nous les membres de l'Église, parce qu'il y a des travaux qu'il faut terminer sur la façade de notre bâtiment. Et il faut terminer ce travail avant fin janvier. Et donc, ça va demander un effort en plus de notre communauté. Et j'espère que vous serez sensibles à cela. Mais ceci dit, il est important pour nous comme chrétiens de savoir ce que Dieu attend de nous et de nos biens matériels, et aussi de notre argent. Nos offrandes sont importantes. Et c'est la seule chose, à vrai dire, que j'ai à souligner pour vous ce matin. Nos offrandes sont importantes. Et nous allons laisser la parole de Dieu nous expliquer pourquoi. Notre texte de ce matin se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 1 à 5, qui va apparaître, j'espère, sur l'écran. La voilà. S'il y a quelqu'un qui veut se lever avec une belle voix pour nous lire ce passage, j'aimerais bien. Vas-y. Ah oui, voilà. Comme vous voulez. Avec une grande voix quand même. Merci, merci Sylvie. Prions. Notre Père Céleste, nous voilà de nouveau dans ta maison et dans ta présence. Et nous sommes dans l'attente d'écouter ta voix et d'être enseignés par ton esprit. Comme le jeune Samuel a dit quand il se trouvait dans ta maison, parle Seigneur, car tes serviteurs, écoute. Amen. Chaque matin, pendant des annonces, ou presque chaque matin, dimanche matin, on vous invite à participer à l'offrande de cette église. Il y a un tronc là-bas, sur la table. Parce que ça fait partie de notre louange d'apporter quelque chose au Seigneur pendant notre culte. Ça m'a fait penser à mon enfance. Un dimanche, je me rappelle bien, un dimanche, je préparais mon offrande avant d'aller à l'église avec mes parents. Et mon papa m'a posé cette question. Fiston, faut-il donner jusqu'à ce qu'on ait de la joie, ou faut-il donner jusqu'à ce que ça fait mal? Vous avez compris? Est-ce qu'il faut donner au Seigneur jusqu'à ce qu'on a de la joie, ou jusqu'à ce que ça fait mal de donner? Ah, oui, je dois dire, quand j'étais petit et je n'avais qu'un dollar, même pas un euro d'argent de poche, ça me faisait mal de donner 10 centimes à l'église. Et donc, c'est une question qui m'est restée dans l'esprit jusqu'à aujourd'hui, et j'ai toujours pas une bonne réponse. Peut-être que c'est un peu les deux. Il faut qu'on ait de la joie, mais aussi que ça fait un peu mal. J'en sais rien. Mais une chose est certaine, et là, peut-être, j'espère que je vais vous choquer. Vous êtes prêts? Dieu n'a pas besoin de votre argent. Aha! Dieu n'a pas besoin de votre argent. Pourquoi? Vous n'avez qu'à regarder dans les psaumes, dans le psaume 50, versets 10 à 12, qui dit, « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, dit le Seigneur. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, sont à moi, dit le Seigneur. Les oiseaux, les bêtes sauvages. Dieu dit, si j'avais faim, je n'avais que m'en servir. Car le monde est à moi, dit le Seigneur. Et tout ce que le monde contient. Mais malgré ça, tout au long de la Bible, tout au long de l'histoire de l'homme, quand les personnes sont rentrées dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient toujours une offrande. Intéressant, n'est-ce pas? Ça a commencé avec Caïn et Abel, ça a continué avec Noé, Abraham, Jacob, les rois, les prophètes. Et même dans le Nouveau Testament, nous lisons que Marie et Joseph et l'enfant Jésus sont allés dans le temple pour faire une offrande, pour faire un sacrifice au Seigneur. Vous n'avez qu'à regarder dans Luc chapitre 2. Et ici, ce matin, dans le passage que Sylvie vient de lire pour nous, les premiers chrétiens qui étaient dans l'église de Jérusalem, j'aime bien dire que c'était la première église baptiste de Jérusalem, mais enfin, ce n'est pas dit exactement comme ça dans la Bible. Ça, c'est ma traduction à moi. Cette église se trouvait dans le besoin. Et donc, l'apôtre Paul, qui circulait dans les églises qu'il avait fondées ici et là, il a invité ces églises, ces nouvelles églises, à faire une collecte en vue d'aider les chrétiens à Jérusalem. Et donc, c'est de cela que nous avons eu ce passage où l'apôtre dit qu'il faut chaque semaine préparez votre offrande pour aider les frères et sœurs dans l'église à Jérusalem. Peut-être vous êtes en train de vous dire, « Mais tu viens de nous dire que Dieu n'a pas besoin de notre argent. » Et c'est vrai, il n'a pas besoin de notre argent. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons des offrandes si Dieu n'a pas besoin de notre argent? Pourquoi? Eh bien, moi je crois que Dieu a besoin que nous ayons une vie qui redonne à lui une partie de ce qu'il nous a donné en reconnaissance. Il est quand même intéressant que si l'apôtre Paul, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, s'il a employé quatre mots pour parler de l'amour, il a employé neuf mots différents pour parler de l'offrande et de ce que nous pouvons redonner au Seigneur. Donc, pour l'apôtre Paul, cette idée d'offrande était très, très importante. Et je suis certain que c'est important pour nous. Et voilà pourquoi ce matin, je vais vous donner cinq bonnes raisons pour lesquelles nous devons donner des offrandes à Dieu. Vous êtes prêts? Ah, des gens, ils ont leur cahier, ils sont en train de noter. Sinon, je peux vous photocopier les cinq bonnes raisons pour tout à l'heure, pour que vous ne les oubliez pas. Première raison, quand nous apportons notre offrande à l'Église, nous rentrons vraiment dans le cœur de la louange de Dieu. Apporter notre offrande à Dieu est une façon de nous plonger dans la louange de notre Dieu. Dans la Bible, nous pouvons constater que chaque fois que les gens allaient dans la présence du Seigneur, allaient au temple, allaient dans les sanctuaires, allaient dans les cultes, ils apportaient toujours quelque chose au Seigneur. Dieu a même dit dans Exode 34, verset 20, c'est Dieu qui parle, hein? Il dit, « On ne se présentera pas les mains vides devant moi. » Donc, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous avons la possibilité, je dirais même la bénédiction, d'apporter quelque chose au Seigneur. Ça fait partie de notre louange. Pourquoi donc? Parce que dimanche après dimanche, vous et moi, nous venons dans l'Église et nous demandons à Dieu de nous bénir. Nous demandons à Dieu de nous pardonner, comme nous avons fait tout à l'heure avant la Sainte Cène. Nous demandons à Dieu de veiller sur nos enfants, ou si vous êtes vieux comme moi, nos petits-enfants aussi, de nous donner de la santé, du travail, et même parfois, à quoi manger, parce que tu viens du Seigneur, finalement. Et quand nous rentrons dans la présence du Seigneur, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de l'adorer avec nos offrandes. Et quand nous demandons ces choses à Dieu, qui nous pardonne, qui nous bénit, qui garde nos enfants, qui nous donne du travail, toutes les choses que nous demandons au Seigneur, il nous écoute, n'est-ce pas? Il agit en notre faveur. Il est toujours présent et fidèle. Et je suis certain, mes chers amis, que quand nous venons dans la présence de Dieu et nous lui présentons nos offrandes, je crois que Dieu y sourit. Il sourit. Deuxième raison. Par nos offrandes, nous sommes en train de participer à l'œuvre de Dieu en dehors de notre Église. Je vous donne des exemples. Une partie de nos offrandes va à la MIB, c'est-à-dire la Mission Intérieure Baptiste de nos Églises. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de nos églises qui travaillent pour évangéliser la France et pour implanter de nouvelles églises. Cette église ici, où nous nous trouvons ce matin, a été commencée par la MIB, par la Mission Intérieure Baptiste. Et c'était nos amis Sarah et John Pickens qui ont débuté cette église. Parce que d'autres églises ont apporté leurs offrandes, les ont données au Seigneur, et ça a permis que cette église démarre. Il y a quoi, 40 ans? Plus de 40 ans maintenant. Merci Seigneur. Une autre partie de nos offrandes va à une autre mission qui s'appelle la MBE, la Mission Baptiste Européenne. Ce n'est pas pour évangéliser l'Europe, c'est l'ensemble des églises baptistes en Europe qui vont travailler outre-mer, comme Hervé et Laurence Touquet, qui ont travaillé pendant des années au Cameroun, qui ont été soutenus par les offrandes de la MBE, de la Mission Baptiste Européenne. Donc, en louant Dieu par nos offrandes, nous sommes aussi en train de faire connaître l'Évangile dans le monde entier. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et cela fait plaisir à Dieu aussi. Vraiment plaisir. Troisième raison. Quand nous consacrons une partie de notre argent à Dieu, nous sommes en train d'investir personnellement dans son Église. C'est un peu comme la différence entre Cathy et moi. Nous sommes allés la semaine passée en ville. On a visité la cathédrale. Mais vous savez, nous ne sommes pas membres de cette église. Hein? On l'a visitée en touriste. On a dit, waouh, oui, c'est grand, c'est magnifique, c'est quelque chose. Mais après, on est parti, on l'a laissé. C'est la différence entre les gens qui viennent en touriste et les gens qui investissent dans la communauté, qui donnent de leur temps et de leur argent pour que l'œuvre de Dieu ici grandisse, c'est-à-dire vous et moi. quand nous amenons nos offrandes ici et nous sommes en train d'investir personnellement dans l'œuvre de Dieu ici. Ou pour le dire d'une autre façon, tant que vous ne la soutenez pas financièrement, l'Église, est-ce vraiment votre Église? Quatrième raison pour amener nos offrandes à Dieu. Pour moi, c'est une façon de dire merci à Dieu, de dire merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et donc, je sais qu'on ne fait plus de chèques vraiment de nos jours, mais quand on met un chèque ou un virement à l'ordre de l'Église, il est comme si nous sommes en train d'envoyer un mot de remerciement au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour une prière exaucée, une bénédiction reçue, sa présence ressentie dans un moment difficile, dans une tempête de la vie. Donc, comment est-ce que nous pouvons montrer à Dieu combien nous l'aimons? Eh bien, il faut être fidèle dans nos dîmes et dans nos offrandes. Car tout le monde, et surtout Dieu, il aime bien quand on lui dit merci. Merci Seigneur. C'est une façon de dire merci. Cinquième raison d'apporter nos offrandes à l'Église le dimanche. Ça concerne notre maintenant, notre présent et aussi notre avenir. Quand nous donnons quelque chose à Dieu, nous sommes en train, mes frères et sœurs, d'amasser un trésor au ciel. Vous vous rappelez des paroles de Jésus quand il a dit, « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde. » Où les vers ou la rouille peuvent détruire, où les voleurs peuvent forcer et dérober, mais amassez plutôt vos richesses où? Au ciel. C'est-à-dire là où le Seigneur peut les protéger. Vous avez vu cette publicité pour la sécurité à la maison, Very Sure. Hein? Eh bien, quand vous investissez vos richesses auprès de l'Éternel, c'est Very Sure. Est-ce que vous savez que les deux tiers des paraboles d'enseignement de Jésus concernent l'argent, nos biens matériels? Pourquoi est-ce que Jésus a tant parlé de l'argent et des choses que nous possédons? Pourquoi? Est-ce parce que des choses matérielles ont comme une emprise sur nous? Peut presque nous contrôler ce désir d'avoir et d'avoir plus. Nos biens matériels peuvent nous empêcher d'aimer Dieu et de lui obéir comme il faut. Vous vous rappelez de l'histoire de jeune homme riche qui s'est approché de Jésus et qui voulait avoir la vie éternelle? Et Jésus a dit, vous n'avez qu'à obéir aux 10 commandements. Et le jeune homme, il a dit, mais je fais ça depuis ma jeunesse. Et ensuite, Jésus, il a dit, mais si c'est le cas, prenez tout ce que vous avez, donnez aux pauvres et viens me suivre. Le jeune homme, il a baissé la tête, il s'est retourné, il est parti, parce que c'était quelqu'un de riche. Et ses richesses l'empêchaient de suivre Jésus. Jésus nous conseille d'investir dans les choses de Dieu plutôt que d'investir en nous-mêmes. Et cet investissement, c'est quelque chose de garanti à vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Et je crois que c'est net d'impôt aussi. Enfin, bon. Donc, pour revenir à notre passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, Paul demande à chaque chrétien de préparer son offrande chaque semaine Il dit dans le verset 2 que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra à part ce qu'il pourra. La question qu'on m'a toujours posée comme pasteur, et ça fait plus de 50 ans que je suis pasteur, devinez quelle question on me pose comme pasteur. Combien est-ce que je dois donner au Seigneur, pasteur, pour être en règle avec lui? Surtout pas la dixième. Ouh, la dixième, c'est beaucoup. La dixième, la dîme, vient de l'Ancien Testament. Et ça faisait partie de la loi de Moïse, la dixième des récoltes, la dixième des fruits, la dixième de tout, la dixième de votre salaire. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus a parlé de la dîme, il a fait en sorte, il a laissé croire que la dîme était le minimum. Mais il faut savoir que si l'Ancien Testament est fait des lois, le Nouveau Testament est fait d'amour. Et donc, nous sommes invités par amour de donner quelque chose à Dieu, parce que Dieu est amour, comme notre sœur nous a rappelé dans notre réunion de prière tout à l'heure. Et Dieu est un Dieu qui donne. Qu'est-ce que Dieu avait de plus précieux? C'était quoi? Son Fils. Et il a donné son Fils pour que nous ayons la vie éternelle, n'est-ce pas? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Notre Dieu est un Dieu qui, dans sa nature, ne fait que donner. Et il nous demande de faire la même chose. Donc, l'apôtre Paul a dit à ses amis de Corinthe, qui mettra à part ce qu'il pourra en faveur des chrétiens nécessiteurs à Jérusalem. J'avais un membre dans mon église à Toulouse qui était marié, mais il était encore étudiant à la faculté de droit. Donc, il ne travaillait pas, sauf pour faire ses études. Mais sa femme était déjà infirmière. Mais elle n'était pas encore chrétienne à cette époque de cette histoire. Et donc, il s'appelle Élie. Élie est venu me voir un jour. Il m'a dit qu'il était très accablé parce que, puisqu'il n'avait pas de salaire et qu'il n'y avait que sa femme qui gagnait de l'argent, lui, il voulait participer aux offrandes de l'Église, mais sa femme, qui n'était pas chrétienne, disait non. Et il était mais vraiment très embêté par ça. Et sans doute, le Seigneur m'a inspiré parce que j'ai dit à Élie, ben, « Écoutez, Élie, finalement, c'est quoi l'argent? Ça représente notre temps, le temps qu'on donne à notre patron pour travailler pour lui et il nous récompense avec de l'argent. Et donc, si tu veux donner la dîme de ce que tu as, de ton temps, pourquoi pas venir travailler dans l'Église avec des tâches que moi, je n'ai pas le temps de faire? Et ainsi, vous donnerez la dîme de votre temps, qui est comme la dîme si tu avais un emploi. » Bon, ça lui a plu, et il a fait ça pendant des mois et des mois. Et finalement, sa femme s'est convertie, ils ont commencé à pratiquer la dîme, enfin, ça, c'est autre chose. Mais vous savez, ce qui est important, ce n'est pas la quantité qu'on peut donner au Seigneur, mais c'est le vouloir de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous en lui donnant une partie de ce qu'il nous a donné. Et donc, pour revenir à cette question, combien est-ce que moi, je dois donner? Est-ce que Cathy et moi, de notre retraite, nous devons mettre dans l'offrande de notre Église? Bon, ben, ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est ce désir de participer et de louer le Seigneur avec ce que nous avons. Selon notre foi et nos possibilités, l'apôtre Paul a dit. J'avais un autre membre dans cette même église à Toulouse qui était un ancien détenu. Il a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Donc, pour dire que c'était un homme un peu dur, je dirais, même il me faisait peur parfois, et il avait les disons, dans sa façon de parler, il était très, très franc dans ses dires. Hein. Et donc, un jour, sans vraiment y penser, je lui ai demandé de présenter le moment d'offrande pendant le culte. Et si mes souvenirs sont corrects, il a dit quelque chose dans ce sens. C'était au moment des offrandes. Il a dit, « Écoutez-moi, c'est le moment de l'offrande. Mais sachez ceci, Dieu ne regarde pas trop ce que vous allez mettre dans le panier. Il regarde ce que vous laissez dans votre poche. » Il avait raison, mon frère. Ce n'est pas le montant qui compte. C'est notre désir de participer à l'œuvre de Dieu, de lui dire merci. Comme nous avons dit dans nos 5 raisons, d'apporter notre offrande comme faisant partie de notre louange. Pour participer à l'œuvre de l'Église en dehors de notre communauté. Pour consacrer une partie de notre argent pour que nous puissions nous investir personnellement dans son œuvre. C'est une façon aussi de dire merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et aussi pour amasser notre trésor au ciel, là où ça va rester pour l'éternité. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un privilège de donner quelque chose au Seigneur. De travailler main dans la main avec le Seigneur dans son œuvre. Donc, je vous invite dans votre vie de disciple. Disciple est un mot qui veut dire apprenti. Nous sommes des apprentis chrétiens. Nous sommes en train d'apprendre comment il faut suivre Dieu. Et dans notre vie de disciple, nous sommes invités à participer à son œuvre en mettant au Seigneur une partie de ce qu'il nous a donné. Quel privilège! Prions. Seigneur notre Dieu, à la limite, nous ne sommes pas dignes de travailler pour toi. Mais tu nous as invités de le faire. Nous te remercions, Seigneur, pour cette Église, pour des chrétiens d'autrefois qui ont permis que cette Église commence, qui ont alimenté et contribué à l'implantation de cette Église. Et Seigneur, maintenant c'est à notre tour de le faire. Et pour le bien de cette communauté, son témoignage à Clermont-Ferrand, mais aussi pour participer à l'avance de l'Évangile et de ton royaume ici sur terre. Quel privilège, Seigneur! Merci, merci que nous pouvons donner une partie, redonner à toi une partie des bénédictions avec lesquelles tu nous as comblés. Merci. Au nom de Jésus. Amen.